On part à Tarbes avec retrouver l'écrivain et réalisateur Gérard Mordillat qui était ce week-end avec le prix Goncourt 2014. Lydie Salévert, l'un des deux principaux invités du Mai du Livre organisé par la Ligue de l'Enseignement des Hautes-Pyrénées au Haras de Tarbes. Ce festival se poursuit encore jusqu'à demain, mercredi. Gérard Mordillat est venu présenter au public son dernier livre, une fresque romanesque intitulée Ces femmes-là. Il l'évoque au micro de Jean-François Courtil.
Je crois que c'est une grande chance pour un auteur de rencontrer des lecteurs et des lectrices. Et le Mai du Livre réussit cette rencontre de façon magnifique. Les deux fois précédentes où je suis venu, j'ai été très admiratif et très heureux de rencontrer tant de gens que la littérature concerne et intéresse. Donc, quand René Truss m'a proposé de revenir une troisième fois, bien entendu, je suis arrivé et j'y serais arrivé en courant.
Vous présentez votre dernier livre, Ces femmes-là, qui est sorti au mois de janvier 2019. Est-ce que c'est un roman d'anticipation? Est-ce que c'est un roman social? Quel est le statut de ce livre selon vous?
Ces femmes-là se passent en 2024, donc il y a une très légère anticipation. J'ai choisi 2024 parce que c'est l'année où la France organisera les Jeux Olympiques et que dans le monde entier, chaque fois que des Jeux Olympiques sont organisés dans un pays, c'est l'occasion pour les gouvernements de prendre un certain nombre de mesures. Et donc je voulais ce contexte-là pour montrer que le gouvernement en 2024 prend un certain nombre de mesures, des mesures entre guillemets sociales, comme de contraindre les chômeurs et les allocataires d'aide à travailler bénévolement sur les chantiers, ce qu'Adolf Hitler avait fait avec beaucoup de succès en 1936, et ce que M. Wauquiez et M. Ciotti, par exemple, préconisent aujourd'hui. Et puis une autre mesure qui va mettre le feu aux poudres, si j'ose dire, qui est de regrouper tous les musulmans dans des quartiers, soi-disant, pour les protéger, donc de créer au fond des ghettos. Et il va y avoir une immense manifestation qui va s'organiser pour protester contre ce projet. Donc Ces femmes-là est un roman réaliste, tout simplement. Ça décrit le monde dans lequel nous sommes à travers les problématiques qui sont les problématiques quotidiennes des Français en particulier.
Dans ce roman, vous évoquez notamment 26 portraits de femmes. Je pense en particulier à l'institutrice Daisy ou à la femme d'un chirurgien, Bérangère. Qu'est-ce qui vous incite à mettre en évidence ces portraits de femmes dans vos récits?
Dans tous mes romans, comme dans tous mes films, d'ailleurs, il n'y a pas de héros au sens masculin du terme, il y a toujours des héroïnes. Et donc, c'était normal dans ces femmes-là qu'il y ait des héroïnes. Et c'était, au fond, c'est un ami qui m'a fait remarquer ça, comme si j'avais convoqué à cette manifestation tous les autres personnages féminins de mes autres romans sous d'autres noms. Mais on y retrouvait certaines caractéristiques. Je crois simplement que, en tout cas pour moi, la condition féminine demeure une condition très, comment dire, infirme au regard des possibilités de ce que sont les intelligences, le talent et le courage des femmes. Donc naturellement, je suis porté vers ce côté-là du monde, vers le côté des opprimés plutôt que du côté des oppresseurs. Et ça me vient, je dirais, sans que j'aie besoin de le formuler ou de le théoriser, très naturellement. Je prends ce parti-là parce que je suis convaincu que toute évolution de notre société passera nécessairement par une évolution, voire une révolution radicale concernant la condition féminine en France et dans le monde, parce que la condition féminine en France est très critiquable sur le plan salarial, sur le plan de l'accession aux responsabilités, sur le plan de la reconnaissance des talents. Mais dès qu'on sort de France, la condition féminine est épouvantable, c'est une horreur absolue. Or, si nous ne prenons pas ça en compte, eh bien, nous irons vers la perte qui nous est annoncée, parce qu'on ne peut pas se séparer d'une moitié du monde sous prétexte que seuls les hommes auraient la lucidité, le courage et l'intelligence de diriger les affaires. C'est une folie totale. Et je crois surtout qu'il y a quelque chose, et c'est très présent à mon avis dans ces femmes-là, qui fait que Dans mon roman, les femmes s'organisent parce qu'elles se reconnaissent entre elles d'abord comme cela. C'est-à-dire, c'est parce qu'elles sont des femmes et que les unes et les autres sont des femmes qu'elles s'organisent. Ce n'est pas parce qu'elles appartiennent à tel milieu social ou à tel groupe politique ou syndical. C'est leur condition même qui fait leur unité. Moi, je crois que nous avons besoin de cette unité et nous avons besoin de tous ces talents.
Vous abordez aussi la question de la condition féminine dans un film qui s'appelle « Mélancolie ouvrière » qui a été diffusé sur Arte le 24 août l'année dernière et qui avait rencontré un grand succès. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de traiter l'histoire de ce personnage, Lucie Beau ?
J'ai découvert Lucie Beau à travers un essai de l'historienne Michel Perrault qui a beaucoup écrit sur l'histoire des femmes. Et en lisant ce texte et en lisant à l'intérieur de l'essai de Michel Perrault un texte écrit par Lucie Beau, qu'elle a donné à une revue syndicale en 1908, j'ai reconnu quelqu'un finalement de ma famille, à la fois de ma famille intellectuelle, sociale, politique, voire syndicale, mais aussi de ma famille presque littéraire, parce que Lucie Beau, telle que je la lisais, aurait pu être un personnage de mes livres. Nous étions de plein pied, elle et moi, à travers le temps, j'avais le sentiment de la connaître comme connaissait ma mère. Pareil, c'était ce même genre de femme. Et donc, il était important, finalement, de prolonger le travail de Michel Perrault, qui l'avait arraché au néant dans lequel elle était tombée, et de continuer ce travail à travers un film, parce que Michel Perrault parle de Lucie Beau comme d'une héroïne. Je partage à 100% cette analyse. Et c'est une injustice extravagante qu'elle ait disparu de notre histoire. Maintenant, elle y est revenue. Il y a une rue Lucie Beau à Visil où elle a mené la grève. C'est quelqu'un qui est sorti de cet oubli. Et je crois que c'est un devoir pour nous tous de considérer notre histoire. Vous savez, la fameuse phrase de Marx, « Ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre ». Eh bien oui, Lucie Beau nous parle d'aujourd'hui.
Quels sont les thèmes qui vous semblent contemporains dans le film « Mélancolie ouvrière » dont l'action se passe dans les années 1906-1907? Qu'est-ce qui est contemporain avec 2019 hein ?
Lucie Beau pourrait vivre aujourd'hui. Pourquoi elle se bat ? Elle se bat pour une question salariale. D'abord, on veut la payer très en dessous de ce qu'elle produit. Donc, la question salariale, elle se pose tous les jours en France. Deuxièmement, elle se bat pour la réduction du temps de travail. À cette époque-là, en 1905, le temps de travail dans les filatures, y compris pour les enfants, était entre 12 et 14 heures par jour. La réduction du temps de travail est une question qui se pose encore aujourd'hui. Et parmi les fautes inexcusables du gouvernement Hollande-Valls, je trouve que c'est la plus inexcusable de toutes, d'avoir renoncé à ce combat pour l'abaissement du temps de travail. On y viendra nécessairement, obligatoirement, tout le dit. Et Lucie Beau se battait pour ça, se battait pour la journée de 8 heures qui arrivera seulement en 1919, 6 ans après sa mort. Ensuite, ce qui est tout à fait contemporain aussi, c'est que dans ces entreprises comme les filatures, qui employaient un immense personnel féminin et très peu de personnel masculin, les jeunes filles et les femmes étaient sous la coupe des contremaîtres, chefs d'atelier, petits chefs en tout genre, qui d'ailleurs n'étaient pas si nombreux que ça, et qui avaient absolument tout pouvoir sur les ouvrières, puisqu'il n'y avait aucune protection d'aucune sorte des ouvrières, et donc il suffisait d'un claquement de doigts pour qu'elles soient renvoyées. Donc elles étaient bien obligées d'en passer par où voulaient les faire passer les petits chefs. Et donc le harcèlement sexuel, les viols, etc., étaient, hélas, une banalité. Et puis, dans Mélancolie ouvrière, on voit qu'il y avait dans ces filatures une très grande propension d'ouvrières étrangères, spécialement des Italiennes venues du Piémont. La question de l'immigration, des migrants, des travailleurs étrangers, de leur utilisation par le patronat s'oppose aujourd'hui comme ça posait en 1905. Donc tous ces éléments-là font que cette histoire qui a presque un siècle, qui a plus d'un siècle, en réalité, nous permet d'interroger le présent et que cette distance historique et sans doute le recul nécessaire pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Quels sont vos prochains projets, Gérard Mordillat ? Est-ce que vous avez d'autres films, d'autres romans, d'autres recueils de poèmes peut-être en projet à présent ?
Je suis en train de terminer une nouvelle série pour Arte sur le même mode que j'avais fait sur la littérature chrétienne et musulmane. Cette fois-ci, j'ai fait un travail sur l'économie avec un ami qui s'appelle Bertrand Roté. Donc nous avons fait 6 épisodes sur, disons, 6 points fondamentaux de l'économie. Le travail, l'emploi, le salaire, le capital, le profit et le marché. Avec pour principe d'inviter des chercheurs venus du monde entier à réfléchir à voix haute sur ces concepts. C'est pas du tout un magazine, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas... Non, on réfléchit, quel est, par exemple, qu'est-ce que signifie le marché du travail ? Qu'est-ce qu'on vend sur ce marché ? Qu'est-ce que ce marché ? Et bon, voilà. C'est une réflexion à voix haute. Et je ne sais pas quand ça sera diffusé. On est en train de faire les finitions. Je commence demain le mixage de la série. Et parallèlement à ça, Bertrand Roté et moi, nous écrivons un essai, au fond, sur ces mêmes questions, sur l'économie. En réalité, sur l'économie du point de vue de la production, autour de la production, un essai qui sera publié au Seuil. Et puis, dernière chose que je peux annoncer, Odile Conseil lance une nouvelle émission sur France Culture qui s'appelle L'épingle du jeu, qui vient à la suite des Papous dans la tête qui ont disparu. Et je fais partie de l'équipe de ceux qui seront dans la nouvelle épingle du jeu.